Jésus dit encore, « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. » Arrivé à ce point de la lecture, vous devriez, pour ceux qui sont un peu familiers du texte, avoir trouvé le titre de cette parabole de Jésus. Je vais vous demander un petit instant participatif, mais en silence, c'est que vous allez garder à l'esprit le titre que vous avez trouvé. On va peut-être s'en servir à la fin de la prédication. Quel titre précis vous avez mis à ce texte. Voilà. Donc il s'agit d'un texte que nous trouvons dans Luc au chapitre 15, du verset 11 au verset 32. Luc 15, 11, 32. Maintenant, le texte va s'afficher et nous allons le relire, mais jusqu'au bout cette fois-ci. Jésus dit encore, « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges ou des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi je suis ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel, contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva, il alla vers son père, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe, revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt, des souliers aux pieds, amenez le veau gras, tuez-le, mangeons, réjouissons-nous. » Car mon fils, que voici, était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné, il était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère, ne voulut pas entrer. Son père sortit, le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans jamais avoir transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer, se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. » Voilà, nous allons nous concentrer aujourd'hui sur le fils aîné, celui qui est resté à la maison. Nous allons nous attarder sur sa personnalité, son vécu, son itinéraire. Nous allons essayer de le rejoindre là où il est. Et cette parabole, pour juste un petit pour mémoire, c'est la troisième d'une série de trois paraboles sur l'éloignement, l'égarement. Des paraboles, ce sont des allégories, enfin des images, des récits. qui souligne une vérité plus, je ne sais pas s'il faut dire spirituelle, mais une autre réalité. Il faut faire une traduction, une translation. Et donc cet éloignement, cet égarement d'une pièce de monnaie, d'un mouton ou ici d'un fils, cet éloignement, cela signifie un relationnel distendu, brisé, une distance qui s'est établie entre deux êtres ou deux choses. Voilà. Donc ça c'est l'objectif, la personnalité, le vécu, la situation du fils aîné. Voyons maintenant le passage qui parle de ce fils aîné. Nous allons plutôt le relire, tout simplement, il est très court. Nous recommençons au verset 25, et petit à petit, nous allons entrer dans la situation de ce fils aîné. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint, approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs, et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Le frère aîné se mit en colère. Il ne voulut pas entrer. Son père sortit, le pria d'entrer. Mais le fils répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans jamais avoir transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec tes prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer, se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Où se trouve ce fils aîné? Il est bien loin de la maison. Il est où? Il est dans les champs. Et il doit revenir quand il y a cet événement inattendu. Il était dans les champs, l'éloignement, il revient. Le trou, la relation distendue se raccourcit, il revint, mais il s'arrête. Il approche de la maison, mais il ne va pas rentrer dans la salle des fêtes. Il appelle un serviteur. Ça, c'est un peu bizarre. Déjà, ce n'est pas tout à fait normal qu'il soit dans les champs. Mais on va essayer de ne pas trop tirer les choses par les choses. C'est un peu le danger. Hein. Dans les paraboles, des fois, on les tire parce qu'on aime bien fouiller tous les détails. Mais là, il demande à un serviteur quand même. Il ne demande pas à son père. Donc, on peut s'imaginer qu'il y avait peut-être une intimité distendue, un éloignement, puisque quand il veut une explication sur un événement qui a l'air considérable, il le pressent bien. Au lieu de faire venir son père, il demande un serviteur. Voilà donc sa situation, quelques éléments qui peuvent nous situer où se trouve ce fils aîné qui pourtant, on le laisse spontanément dans le domaine paternel et à la tête même du domaine paternel. Voyons maintenant sa réaction. Elle va nous renseigner sur cette première analyse sur sa situation. Eh bien, la réaction, elle ne se fait pas attendre, elle est claire, c'est la colère. Il sort de ses gonds et il refuse d'entrer. Donc, il a fait un bout de chemin, mais il s'arrête et il ne va pas faire la suite. C'est la colère qui l'en empêche. C'est cette colère qui le maintient à distance. Et c'est une colère fondée. Il y a trois arguments. L'ancienneté, la performance, le retour sur investissement. Cela fait tant d'années que je te sers. Il a compté les années. je n'ai jamais désobéi à aucune de tes directives. Il les a comptées. Et le total, c'est zéro. Et il a compté le nombre de fois où il a eu un compliment, un retour sur investissement, une joie d'avoir agi ainsi. Et le total, c'est zéro. Jamais tu ne m'as donné. Ce fils, il est dans les champs, il est loin du Père, il a une intimité avec le Père qui n'est pas aussi glorieuse que ça. Il a en fait la mentalité d'un salarié sans joie. Cette colère manifeste que son cœur, on a parlé du cœur là, son cœur, c'est un boulier, ou c'est un triple boulier. Il y a trois compteurs chez lui. Toute sa vie, jour après jour, il compte les années de fidélité dans le domaine. Les fois où il a raté quelque chose, et les fois où il aurait voulu faire la fête et où il n'a pas pu, parce que le Père ne lui a pas renvoyé l'ascenseur, selon sa version. Voilà la situation du fils aîné. Une situation dramatique. Et on va faire un petit bilan d'étape pour approfondir l'analyse de cette partie de la parabole. Alors, c'est un bilan d'étape sous forme d'enquête. Et j'ai demandé à Lucien de bien vouloir se charger de cette enquête, parce qu'il est plus versé dans ce domaine que moi. Il a enquêté sur les titres bibliques. Vous savez que le texte original est grec et qu'il est tout d'une traite. Il n'y a pas d'alinéa ou très peu. Hein, il y a, tu me corriges, hein, Pierre, si... c'est brut, c'est serré, il n'y a pas de ponctuation, il n'y a pas d'interstice, la police c'est du 12 ou du 10, et puis tous ces titres, tous les versets et même les chapitres sont venus bien après. Et tous les éditeurs de Bible, pas tous, mais certains, ont choisi de mettre des titres pour s'y retrouver plus facilement. Alors Lucien, qu'est-ce que ça a donné à la question « Quels sont les titres que les Bibles donnent à ce passage ?» Ah, tu fais comme tu veux. Allez, viens. Voilà.
Bonjour à tous. Comme les titres sont des textes rajoutés qui n'existent pas dans la Bible originale, donc je n'ai consulté que des Bibles où il y avait des titres. Par exemple, la Bible du Semeur, je crois, n'a pas de titre. Alors j'ai consulté en français 12 traductions différentes. Et alors sur les 12 traductions différentes, il y en a 10 qui sont à peu près les mêmes, qui disent en gros « le fils perdu, le fils retrouvé ». Voilà, donc ce n'est pas très original si on peut dire. Hein. Mais j'ai trouvé deux choses originales dans deux traductions différentes. Alors quelles que soient les confessions, parce qu'il y en a une, c'est la Bible de Jérusalem, et l'autre c'est la Bible annotée qui est une Bible protestante. Donc dans la Bible de Jérusalem, il est indiqué en titre « Le fils perdu et le fils fidèle ». Donc une première allusion à ce fils dont parle Gérard. Et dans la Bible annotée, la Bible protestante, donc de Godet, il est indiqué « Les paraboles de la grâce ». C'est intéressant aussi.
Donc les trois paraboles.
Voilà. Donc en fait, il y a très peu, c'était surtout les traductions anciennes qui parlaient de fils prodigue, et puis au fur et à mesure, ils ont parlé de fils perdu et retrouvé. Et puis bon, les traductions modernes essayent de mêler un peu le nouveau fils à ça, le deuxième fils. Voilà. Alors comme j'ai fait un peu d'allemand, j'ai consulté aussi 4 traductions de Bible allemande. Et donc les Allemands, c'est un peu comme nous, en France. Sur 4 traductions que j'ai consultées, ils parlent du fils perdu et du fils retrouvé. La troisième parle de parabole des deux fils. Et la quatrième ajoute un élément, le père et ses deux fils. Voilà. Alors j'ai continué sur ma lancée. En anglais. En anglais, j'ai consulté trois traductions. Alors en anglais, c'est trois traductions, bon, que j'ai trouvées sur Internet, donc c'est peut-être pas tout à fait représentatif. On ne parle que du fils prodigue et du fils perdu, pas du tout du deuxième fils. Et pour terminer, une traduction en espagnol et une traduction en italien. Comme je ne connais pas ces langues, je n'ai pas trop approfondi. Alors une traduction en espagnol dit « les deux fils ». Une traduction en italien révisée en 2006 dit « le fils prodigue ». Voilà. Voilà le résultat de mes recherches, ça te convient ? Parfait.
Je ne veux pas remettre en question les conclusions, voilà. Bilan de cette affaire-là. Ben, le fils aîné, il est transparent. Waouh ! Au pire, on lui dit qu'il est fidèle. Voilà. Mais le titre le plus neutre, académiquement parlant ou littérairement parlant, c'est « Le père et ses deux fils ». C'est d'ailleurs comme ça que commence le récit. Un homme avait deux fils. Voilà. Tout simplement. Mais le fils aîné, il est transparent. Alors pourquoi est-ce que nous avons l'unanimité, quasi l'unanimité sur ce titre, le fils prodigue, qui signifie le fils qui dépense sans compter, le fils vie de bohème. Pourquoi? Alors qu'en fait le fils aîné, c'est ça, c'est la thèse que j'avance, alors on l'a à partir de là, hein, voilà. Mais alors qu'en fait le fils aîné, c'est le personnage principal. Pourquoi ? Parce que Jésus s'adresse à ceux-là. Il est devant un auditoire de fils aînés. On revient juste un petit peu en arrière, chapitre 15, verset 1. « Tous les publicains, les gens de mauvaise vie, s'approchaient de Jésus pour l'entendre, et les pharisiens, les scribes murmuraient, disant : cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Verset 3, « Mais il leur dit cette parabole, lequel d'entre vous ?» Donc son public, là, pour entendre ces trois histoires, ce sont les religieux de l'époque, c'est-à-dire ceux qui font tout bien comme il faut et qui ne plaisantent pas sur cette question. Ça fait même des années qu'ils le font. Donc ces trois textes, mais en particulier celui des deux fils qui est très développé, c'est pour mettre en avant le personnage principal qui est ce fils aîné. Et la question qui s'ensuit, c'est pourquoi est-ce que nous le lisons peut-être pas comme ça d'abord ? On aime bien l'histoire du fils perdu. Ben parce que c'est une belle histoire qui se termine bien, sauf qu'ils commençaient à se réjouir, qu'ils n'ont pas terminé. Il manque quelqu'un. Donc nous allons essayer ce matin de nous imaginer fils aîné à la place, on va s'identifier, comme on dit, hein, quand on regarde un film, on m'a expliqué ça, quand on regarde un film, tu t'identifies forcément à un personnage dans le film, un ou plusieurs. Généralement le plus costaud, le plus musclé, celui qui obtient justice. Moi, ça me fait du bien de m'identifier à ces gens-là. Hein? Après, le film est terminé, le lendemain matin, en me réveillant, c'est pas très gai, mais voilà, au moins je me suis fait du bien pendant un film. Eh bien, là, on va s'identifier à quelqu'un, et c'est le fils aîné. Pourquoi ? Parce qu'il y a peut-être un déni chez nous. C'est qu'on n'envisage pas l'instant d'une seconde que ça pourrait peut-être être un peu nous, parfois, pas tout le temps, pas complètement, pas de manière aussi catastrophique, mais si quand même, réfléchissons un peu. Alors, on est peut-être un peu fils aîné par déni, ou plus subtilement, dans un glissement entre le fils cadet que nous avons été, vers le fils aîné que nous sommes devenus ou que nous imaginons devoir être. Alors, pour approfondir cette réflexion sur serions-nous des fils et des filles aînés, nous allons voir maintenant le Père. Le Père, verset 28, le Père sortit. nous avons vu qu'il y a là quelque chose d'époustouflant. Le Fils aîné fait sortir le Père de là où il est pour que le Père remplisse la partie de l'éloignement que lui ne veut pas faire. Vous avez vu comme ça ressemble étrangement à cette sortie du Père pour le Fils cadet. Le Père était quelque part, pas tout à fait dans son domaine. Il était à la fenêtre, ou peut-être sur les marches du porche, ou peut-être même à la lisière de sa propriété, et il regardait l'horizon. Il avait fait un bout de chemin. Mais là, le Fils aîné convoque le Père. Comment ? On n'a pas les détails. Est-ce que l'ouvrier est allé voir le Père et dit-on, fils est dehors, il est fâché, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, c'est le Père qui sort, ça c'est sûr. Et comble de l'étonnement, ce Père qui est donc mis pour Dieu dans la relation avec nous, ses enfants, c'est le Père qui prie le Fils. Vous voyez ce renversement incroyable. Celui qui est dans la maison du Père, ou plutôt éloigné de la maison du Père comme le Fils aîné, il renverse l'ordre céleste au point où c'est Dieu qui prie l'homme et qui lui dit, s'il te plaît, mon enfant, on ne connaît pas les arguments, on ne sait pas ce que là le Père a dit. Mais il l'a prié, il a dit, écoute, rentre, je t'en prie, détends-toi, calme-toi, je ne sais pas ce qu'il a dit. Mais c'est lui qui prie le Fils. C'est impensable. Et au verset 31, on a vu la colère du Fils aîné, qui, j'ai un peu oublié de le dire, la colère, elle se cristallise sur une frustration immense, celle de ne pas avoir eu de chevreau pour s'amuser, et donc elle explose, parce qu'elle était contenue jusqu'ici, pendant des années, ce Fils aîné, il devait se dire. Et elle explose à quel moment ? Devant la libéralité du Père. Toi, tu as tué le veau gras quand ton fils cadet est revenu. Mais c'est pas pensable de faire un truc pareil. Ça m'hérisse le poil, je te supporte plus. Je n'admets pas ton attitude. Voilà ce que le Fils dit à son Père. Et là, au verset 31, c'est le verset le plus terrible de la parabole. Verset 31, le Père dit, « Mon enfant, même pas mon fils, mon enfant de la tendresse, tu es toujours avec moi. » Ben mince alors. Il n'y a aucune distance entre le Père et le Fils aîné, aucune. Tu es toujours avec moi. Oh, tu travailles peut-être au champ, peut-être que tes copains, c'est les ouvriers, peut-être que tu aurais aimé faire la fête avec tes amis, mais moi, je suis toujours avec toi. Ça ne vous rappelle rien ? Matthieu, chapitre 28, « Voici, je suis avec vous tous les jours. » Et c'est que la première partie du verset 31, « Mon enfant, tu es toujours avec moi. » Et alors la deuxième, c'est encore pire, « Tout ce que j'ai est à toi. » Là, c'est... Alors là, les bras nous en tombent. Le fils aîné dit, « J'ai jamais eu même pas un chevreau. » Apparemment, il y a une différence entre un veau gras et un chevreau. Le veau gras, c'est le mets, comme cet après-midi ou à midi, c'est le plat quand on veut faire la fête, mais la vraie fête, c'est-à-dire la fête d'une communion, d'une joie, etc. Le veau gras, c'est en fait le truc typique pour un mariage. C'est le summum. D'ailleurs, il a un pronom défini, le veau gras. Hein? Donc c'est une entité, comme ça. C'est magnifique. Et puis là, c'est un chevreau. Donc, le fils s'est construit un père qui n'existe pas. Il s'est imaginé être dans la disette de la joie
Il n'avait rien à se mettre sous la dent en termes de plénitude, de réconfort, d'affection, mais c'est dans son imaginaire. Parce que le Père lui rappelle, tout ce que j'ai est à toi. Là encore, est-ce que ça nous rappelle rien? Oui, on voit. Est-ce qu'il y a des petites affirmations bibliques qui peuvent vous venir à l'esprit, là? Pierre, il y a quelques-unes. Tu m'en suggères une, peut-être? Et tu me suggères un verset qui dirait la même chose, un parallèle? Oui, nous avons tout pleinement en Christ. Le plérôme qu'on appelle, hein, nous avons tout pleinement en Christ. Ou nous avons été bénis de Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. On l'a cité dimanche dernier, Éphésiens chapitre 1. Ou vous êtes fils d'adoption. Et en tant que fils d'adoption, vous êtes héritier de Dieu et co-héritier de Christ. C'est plus juridique, c'est moins émotionnel, mais c'est la même chose. Mon enfant, tout ce que j'ai est à toi. Voilà une vie ratée. Ce fils aîné est passé à côté pendant des années avec une triple problématique. Il a persévéré pendant des années. Il a bien tout fait comme il faut. Et il attendait la joie qui n'est jamais arrivée. Et voilà qu'il découvre que tout ça était là tous les jours. Il aurait pu manger le veau gras avec ses amis tous les jours. Il n'aurait pas appauvri son père. Mais qu'est-ce qu'il avait à l'esprit? Le capital que l'autre, c'est-à-dire son frère, qu'il n'appelle pas son frère, hein, parce que quand il parle à son père, il dit « ton fils ». Déjà, il a rompu les relations fraternelles. « Ton fils » et tiens, j'ai perdu l'idée. Vous allez compléter, sans doute. Oui, il a tout perdu, oui. Il est dans le désert. En fait, il est perdu. Donc le fils perdu, c'est peut-être un bon titre. Mais c'est peut-être le mauvais fils. Et puis, il y a un petit détail encore, verset 32, où il y a une nécessité qui s'impose à Dieu. Il y a un impératif que le Père exprime à son Fils. Et voici comment il dit, « Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir. » Voilà un commandement qui s'impose au Père. Le Père explique à son fils aîné, « Écoute, franchement, dans une situation dans laquelle nous sommes, un fils de la famille, il est perdu loin là, il revient, il était mort, il est vivant, ben on ne peut que faire une chose. C'est la fête, la communion, retrouver, reconsolider les liens. Il fallait faire la fête. » Donc le compteur du fils aîné, qui avait zéro désobéissance, et là, voilà que le compteur se met sur 1. Il a désobéi à 7 impératif divin, il fallait bien s'égayer et se réjouir. Alors la fin de l'histoire, eh bien il n'y en a pas. Le père dit au fils, il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche, on continue sur une autre histoire. Puis il n'y a pas de fin. On est là, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Il n'y a pas... Ah ben ça va être à nous de la terminer. Ça va être à nous d'imaginer un scénario. Si Jésus ne termine pas l'histoire, c'est peut-être que cette histoire est sans fin. C'est l'histoire des communautés chrétiennes. C'est l'histoire de nos relations. Et peut-être de nos relations avec nous-mêmes, avec moi. Moi, fils cadet, et moi, fils aîné. Moi, fils cadet, devenu fils aîné. Un petit peu. Alors, à nous de la terminer. Je reviens vers l'idée
de départ. Quand vous avez entendu l'histoire, quel titre avez-vous donné à la parabole pour ceux qui l'ont reconnu? Donc si vous avez trouvé le fils perdu ou le fils prodigue, ça compte pas, vous êtes dans la majorité. Donc, enfin, ça compte, hein, c'est important votre découverte. Mais est-ce que quelqu'un a trouvé autre chose? Vous voudrez bien nous partager. J'ai trouvé un autre titre.
Le père admirable.
Ah ouais, mais admirable pourquoi? Parce qu'il a sauvé le fils cadet, on est d'accord? Ou pas? Non. Oui, il aimait les deux. Peut-être qu'il a aimé plus le premier que le second. On n'aime pas différencier, hein, et on a raison. Sans doute que cet amour est indifférencié. Mais avec cette histoire-là, on a quand même l'impression que le père, il paye cher. Il paye cher la deuxième démarche. Parce qu'il se rend compte que son fils est passé à côté de quelque chose qu'il avait. Le fils cadet, on comprend, hein, c'est très bien. Je suis content, ça n'arrive pas qu'à moi. Le fils cadet est complètement... C'est limpide, c'est linéaire. Mais le fils aîné, c'est très, très, très... comment dirais-je? C'est très pervers, enfin, c'est très subtil, c'est très compliqué, quoi. On arrive à nous, en tant que chrétiens, à se dire, mais jusqu'à quel point je suis orphelin? Jusqu'à quel point je suis salarié? Jusqu'à quel point je suis frustré? Jusqu'à quel point je suis en colère? Au point où j'aimerais que mon frère ne revienne pas, qu'il reste mort. Parce que c'est ce que dit le fils aîné. Voilà. Alors on a un antidote ou deux. Je vous en propose une sous forme de chant. On va écouter la voix de Jésus. Entendez-vous sa voix qui nous dit « Je vous aime tous ». Est-ce qu'on ose entrer dans cette promesse? Voilà le chant qui nous est proposé maintenant. Alors, si l'équipe de musiciens veut bien nous aider à chanter ce chant très doux, qui est choisi par l'équipe, pour illustrer ce drame. Finalement, il faut l'appeler par son nom, c'est un drame. Donc, c'est une antidote au drame. Amen.
Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous bénir tous, je veux vous bénir tous, sa douce voix l'entendez-vous. Tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix entendez-vous, je veux vous sauver tous, je veux vous sauver tous, sa douce voix. Je veux vous sauver tous. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix entendez-vous. Oh, je vous aime tous. Oh, je vous aime tous, sa douce voix entendez-vous, oh je vous aime tous.
Merci beaucoup, merci Gérard d'avoir fait revivre cette belle histoire en mettant l'accent là où il doit être, très certainement dans cette parabole. Merci beaucoup.